Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. On connaît déjà une partie des nouveautés d'iOS 19 et iOS 20. Voyant qu'Apple traîne des pieds pour appliquer le DMA, la Commission européenne vient de lui fournir une feuille de route précise pour les deux années à venir en matière d'interopérabilité. Qu'est-ce que cela va changer pour votre iPhone? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple TV Plus ne fait apparemment pas recette, la débâcle autour de Siri provoque un remaniement à Cupertino et l'iPhone 17 Air se dessine de plus en plus clairement. Nous sommes le samedi 22 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Une semaine après leur sortie, on a commencé à publier nos tests des nouveaux produits d'Apple. Vous pouvez dès à présent lire les tests du MacBook Air M4 et des iPad Air M3 si vous êtes abonné au Club Hygiène. Et les tests des Mac Studio et de l'iPad A16 devraient quant à eux être en ligne ce week-end. Salut Christophe, tu vas bien ?
Salut Stéphane. Oui, bah ça va mieux que chez certains chez Apple qui ont dû avoir les oreilles qui sifflent suite au déboire de Siri. Et toi ?
Ça va bien, ouais. Dis-moi, tu disais la semaine dernière que l'iPad Air te faisait un peu de l'œil. Est-ce qu'après la lecture du test, ton avis a été conforté ou au contraire, tu as changé d'avis ?
Non, tu m'as fait un petit peu changer d'avis. Ah. En plus, cette semaine, il y avait de belles promos sur les iPad Pro 11 pouces M4. Donc, tout ça faisait que... Mais bon, à la fin, mon iPad Pro 13 pouces de 2020, il n'est peut-être pas intelligent, mais il continue de tenir la route, donc pourquoi le changer ?
Oui.
Par contre, ça va te faire plaisir, mais j'ai installé dessus l'App Store d'Epic.
Ah oui ?
pour montrer à mon fils que Fortnite pouvait à nouveau tourner dessus. Il n'arrête pas de se plaindre parce qu'il a une sorte de PC gaming qui ressemble plus à un pot de yaourt qu'autre chose.
Et il un gros pas pot de yaourt, alors.
Ouais, il n'arrête pas de se plaindre parce que ça frise, ça bug, je sais pas trop quoi, enfin voilà. Puis il se plaignait, il était à côté de moi, j'ai dit, écoute, j'en ai marre, arrête de te plaindre, on va voir ce que ça donne sur l'iPad.
Ouais.
Et bah, ça marche très bien, il était trop content.
Ah bah super.
Par contre, il me disait juste un truc, non, le seul truc, c'est que c'est limité à 30 fps.
Ah bon.
Alors j'ai cherché à comprendre, je me suis rappelé que quand même que la tablette, enfin l'iPad Pro, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Mmh.
Alors est-ce que c'est une question de puissance ou est-ce que c'est un réglage ? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il était beaucoup plus silencieux que quand il rageait sur son PC.
Ah bah super, ouais. Les 30 fps, ça m'étonne un peu parce qu'en plus, il me semblait que ça avait été adapté pour 60 fps, voire plus, avec les écrans ProMotion. Mais peut-être que ça a changé depuis le retour de Fortnite, il y a eu pas mal de changements. Le premier gros sujet de la semaine, c'est cette feuille de route précise dressée par la Commission européenne pour Apple. Dans le cadre du DMA, Apple doit améliorer l'interopérabilité de l'iPhone et de l'iPad avec les produits des autres marques, comme les montres connectées et les casques de réalité virtuelle. Mais cette obligation en matière de concurrence, Apple ne l'a pas vraiment respectée jusqu'à présent. Alors la Commission a fait une partie du boulot pour elle en définissant 9 fonctionnalités précises et un planning clair. Alors d'ici le 1er juin 2026, Apple devra permettre aux montres connectées d'afficher les notifications d'iOS et d'interagir avec. Alors c'est déjà possible avec l'Apple Watch bien sûr, mais pas avec les autres montres. Le créateur de Pebble s'en est d'ailleurs ému récemment alors qu'il prépare le retour de ses fameuses montres. Et puis parmi les autres choses, Apple va devoir faire une place aux alternatives à AirDrop et à AirPlay. Et puis il y a la bascule automatique des AirPods d'un appareil à un autre qui devra être rendue possible pour d'autres écouteurs. Pour ça, Apple aura jusqu'à juin 2027. Alors Apple n'est pas contente du tout de ce planning. Elle dénonce des lourdeurs administratives qui freinent l'innovation. Est-ce que ça peut vraiment freiner Apple tout ça ?
Oh bah sans doute, hein, si chaque pays ou si chaque bloc de pays veut imposer ses décisions sur chaque point, évidemment ça va être compliqué, on va se retrouver avec des petites usines à gaz. Ceci dit, je voudrais quand même faire le bilan sur cette année de DMA. Et de mon point de vue, alors ça va être un peu polémique, mais je pense que le problème, c'est à la fin, ça reste l'Union européenne, pas Apple. Évidemment, comme tu dis, Apple fait preuve de mauvaise foi. Mais le but d'une société comme Apple, c'est de faire de l'argent, satisfaire sa clientèle. Elle n'est pas là pour faire plaisir à la Commission. Je pense que le cadre que l'Union européenne a mis en place est tout simplement mauvais et qu'Apple a su très bien l'exploiter. On a fêté donc le premier anniversaire et quand on fait le bilan du DMA, le verre il est plutôt à moitié vide. Les App Store tierces, bon, il y a celui d'Epic Games dont on a discuté tout à l'heure, ok, c'est très bien. Puis après, tu en as un autre dont la grosse nouveauté, c'est enfin oui, la grosse nouveauté, c'est de pouvoir télécharger un navigateur web optimisé pour le porno. Bon, ouais, ok, très bien. Pendant ce temps, les navigateurs avec des moteurs de rendu tiers, ils sont, bah, il n'y en a pas. Finalement, le seul changement, on va dire, vraiment positif pour les utilisateurs, ce sont ces différents panneaux qui permettent de mieux personnaliser son expérience en choisissant ses apps et services par défaut. Et puis, l'Union européenne a aussi tapé sur la NFC, et ça, je trouve que c'est très bien.
Oui, mais pour les navigateurs tiers, justement, avec les moteurs de rendu tiers, bah, c'est parce que Apple freine tes pieds. J'avais justement interrogé la Vivaldi, Mozilla, qui disait que, en fait, ils faisaient face à trop de contraintes pour réussir à mettre Gecko ou Blink dans leur navigateur encore.
Ouais, mais bon, enfin, j'ai l'impression que c'est plus des contraintes politiques que de vraies contraintes techniques. Ne serait-ce que, enfin, moi, ce qui me surprend, alors peut-être qu'effectivement, il y a des choses très compliquées, mais comment se fait-il, parce qu'on parle, on parle, on a l'impression des fois, on casse du dos du sucre sur Apple, pourquoi personne n'a montré, ne serait-ce qu'une bêta relativement avancée? Regardez ce que ça donne. Pour montrer, regardez, c'est possible. Évidemment, et c'est tout le problème du DMA, c'est que, et c'est par rapport à tout ce que disait Apple sur ces histoires de lourdeur administrative, c'est que finalement l'Europe veut imposer des choses, mais sur un territoire enfin, vous voyez, sur un territoire certes important, mais c'est que finalement que 500 millions de personnes. C'est là tout le souci, c'est-à-dire que c'est un boulet pour Apple les éditeurs se disent, mais est-ce que ça vaut le coup de développer un navigateur spécifiquement pour une partie de nos utilisateurs? Donc on est dans un truc où en fait bah, la solution, mais ça on l'a parlé aussi sur beaucoup de choses, notamment sur ces histoires d'accès justement aux sites adultes et ce genre de choses. En fait, il faut arriver à un sort de consensus mondial. Bon, en ce moment c'est compliqué les consensus mondiaux, on est d'accord. Mais alors le truc, moi, qui me, enfin voilà, c'est, enfin le truc qui me rend un peu fou, c'est quand même, c'est à quel point l'Union européenne s'attarde sur des détails. Ça me dépasse, ça me sidère. Il y a quand même pas plus urgent à gérer dans le domaine de la high-tech. Enfin, je le dis et je le répète, l'UE doit choisir ses combats. Elle en est incapable. Elle doit apprendre à dire non, comme une certaine société qui sait plus bien le faire d'ailleurs. Je ne dis pas que dans les points qu'elle soulève, certains ne sont pas discutables. Évidemment, ce serait intéressant depuis une Garmin de répondre à une notification. Oui, pourquoi pas. Mais quand je vois l'empressement de la Commission à vouloir régler ses problèmes, et c'est pas tout à fait une inaction, mais la lenteur à laquelle les choses avancent, par exemple, pour régler le cas Twitter et de manière générale tous les soucis qu'il y a avec les réseaux sociaux. J'avoue que je comprends pas. Le monde et nos démocraties iront bien mieux le jour où les réseaux sociaux fonctionneront de manière saine et seront régulés que le jour où on pourra faire du airdrop avec un Samsung. Enfin, je suis désolé. Et si la Commission veut vraiment embêter Apple, il existe des moyens qui sont beaucoup plus radicaux. Enfin, je veux dire, voilà, vous voulez faire peur à Apple, et ben menacez-leur et forcez-leur de pouvoir installer un autre iOS que un autre système d'exploitation qu'iOS sur un iPhone. Là, on va bien rigoler parce qu'en plus, je suis sûr que ça intéresserait Google, par exemple.
Ah bah ça c'est sûr, ouais.
Mais voilà. Mais alors, moins radical. À la limite, si vraiment elle veut ouvrir iOS, qu'elle contraigne Apple à laisser les développeurs mettre au point des extensions pour iOS qui puissent modifier de manière profonde le système. Je parle un petit peu comme on le faisait il y a très longtemps sur le système 7 et sur les vieux macOS. Je suis pas certain que ce soit une très bonne idée d'un point de vue technique, hein. Et je pense que ça fera surtout le bonheur des antivirus. Mais voilà, à la limite, qu'elles sortent
Bah, c'est un peu ce qui est prévu avec cette question d'interopérabilité. C'est que les développeurs qui n'ont pas accès à des fonctions que Apple utilise elle-même, les API privées, puissent utiliser ces API privées en fait également de leur côté, quoi. Et là, le problème qu'a soulevé la Commission européenne, c'était que en fait, c'était une boîte noire le processus d'interopérabilité mis en place par Apple. Et du coup, la Commission européenne a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, puisque les développeurs n'arrivent pas à avoir des réponses de la part d'Apple pour les demandes d'interopérabilité, on va poser un cadre hyper précis et Apple devra faire ça, 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 ça et ça. Sinon, voilà, elle va se prendre une méga amende dans quelques années, quoi.
Bah, je suis curieux de voir ce que ça donne parce que ça fait longtemps qu'on parle effectivement de cette solution pour permettre, on va dire, de fluidifier les relations entre Apple et les développeurs lorsqu'il y a des points d'achoppement. Bon, ce serait intéressant, mais enfin, encore une fois, je pense qu'on... Enfin, c'est pas des broutilles, mais je pense qu'on passe à côté du plus important dans cette affaire.
Sans transition, il a aussi été question d'Apple TV+, cette semaine. Une quatrième saison de Ted Lasso a été annoncée récemment, mais il en faudra beaucoup plus si Apple veut dégager de l'argent. On s'en doutait un petit peu, mais Apple TV+ n'est apparemment pas rentable. D'après The Information, Apple perd environ 1 milliard de dollars chaque année avec son service de streaming. Ça serait d'ailleurs le seul service de Cupertino qui n'est pas rentable, même si Apple Fitness Plus et Apple Arcade s'en sortent juste grâce à Apple One. Mais est-ce que c'est un problème qu'Apple TV Plus ne rapporte pas d'argent, Christophe ? Parce que le service sert peut-être d'autres intérêts ?
Quand tu as dit cette phrase, Steve Jobs est retourné dans son tombe, hein, je le dis tout de suite. Hein. Je me range derrière le patron Netflix, qui est quand même beaucoup plus compétent que moi, donc il a dit « Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un placement marketing, mais ce sont des gens très intelligents, peut-être voient-ils quelque chose que nous ne voyons pas. » Donc, non, mais alors, c'est vraiment une surprise. Quand je dis qu'Apple TV+ perd 1 milliard par an et que d'un autre côté, j'apprenais il y a quelques semaines que le département d'intelligence artificielle d'Apple manquait de ressources financières et matérielles, bah, moi, ça ne me fait pas rire. Hein, donc, voilà. Enfin, je l'ai dit, je le répète, Apple TV+, c'est un jouet qui n'a aucune raison d'être. Et au final, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que la stratégie de diversification de services d'Apple est un échec complet. Alors, pourquoi la division services marche quand Apple publie ses résultats financiers ? Elle annonce toujours des chiffres en progression et, on va dire, voilà, une santé éclatante par rapport à d'autres divisions qui ont tendance un petit peu à faire du surplace. Bah, c'est très simple, hein. Vous avez tout d'abord le chèque de Google pour être le moteur de recherche par défaut sur ces terminaux. Donc on part d'à peu près de 20 milliards de dollars. Mais attention, ce chèque va peut-être pas être éternel parce que là, c'est le régulateur américain et quelques autres qui se penchent sur cet accord. Et voilà, à mon avis, il ne sera pas éternel. Le deuxième point, ce sont les revenus associés aux App Store, notamment les abonnements. Là, c'est sûr que les 15 ou 33% qu'Apple en poche à chaque abonnement, c'est un business très très lucratif. Et puis, bah, il y a tout le business autour d'iCloud, d'iCloud Plus, parce que ça avait quand même sens d'utiliser les services d'iCloud quand on achète un Mac ou un iPhone, et bien évidemment, Apple Care. À tout ça, il ne faut pas oublier un service qui fait beaucoup moins parler que les autres, mais qui est très rentable, c'est Apple Pay.
Même si là aussi, Apple Pay, bon voilà, avec ce qui se passe en Europe, même dans le monde entier, maintenant Apple a un peu ouvert son service de paiement à d'autres, enfin sa technologie de paiement à d'autres services, quoi.
C'est clair, tu as tout à fait raison, et ça risque d'être plus difficile dans les années à venir. Par contre, tous les services présentés par Apple au milieu des années 2010, je me souviens qu'il y avait eu un keynote spécial, bah, ce sont des échecs, tous qui sont plus ou moins importants. Donc Apple TV+, tu l'as dit, 1 milliard par an, c'est quand même c'est beaucoup. Apple News n'a jamais décollé. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que je pense que Apple avait une vraie carte à jouer dans ce domaine-là. Toutes les initiatives par rapport, et ça, on est bien placé pour en parler, parce qu'on a édité des livres numériques, donc avec Apple Livres, ça ne marche pas. Apple Arcade, ça vivote. Et je pense que... Enfin, l'idée était quand même de révolutionner la manière dont on jouait sur smartphone. Et je pense que voilà, le business généré par Apple Arcade est bien peu de choses par rapport au secteur de jeux vidéo sur mobile qui se gavent, on va dire, soit d'achats d'in-app ou qui sont financés par la publicité. Apple Fitness, que j'aime beaucoup, bah, c'est sympa, mais bon, voilà, ça reste... C'est surtout intéressant pour les utilisateurs d'Apple Watch. Donc, c'est déjà assez peu de monde par rapport à l'ensemble de la clientèle Apple. Et puis, bah, il y a un autre service dont on parle assez peu, enfin, dont on parle beaucoup, mais qui, en fait, enfin, on vient de se rendre compte que c'était quand même un vrai gros échec, c'est Apple Music. Alors, voilà. On a le service d'Apple, donc j'ai regardé les chiffres que j'ai pu trouver. On parlait de 78 millions d'abonnés en 2023. Et là, d'après ce qu'on a pu comprendre, il tournera aux alentours de 90 millions d'abonnés.
Mmh. Tu parles de vrai gros échec, c'est quand même pas mal, 90 millions d'abonnés, non ?
Alors, on va en discuter. Spotify, entre 2021 et 2023, est passé de 158 millions d'abonnés à 210 millions d'abonnés. Mmh. Et en fait, enfin voilà, quand on trace des courbes, ben Spotify ne cesse de creuser l'écart. Et puis, il y a une époque où Apple était le solide numéro 2 dans ces domaines-là. Là, il faudrait regarder ce que font les autres, mais ils sont plus en numéro 3 ou numéro 4. Alors, c'est vrai, comme tu le dis, que 90 millions d'abonnés, c'est pas mal. Le seul souci, et là, par contre, Spotify pourra quand même bien nous en parler, c'est quand même une activité qui ne dégage quand même pas énormément de marge. Hein. Voilà. Donc, moi, par rapport à tout ce qu'on dit, enfin, j'en tire deux enseignements. Un, alors ça c'est pour l'Union européenne, c'est que la concurrence quand même, ça a l'air pas mal de marcher, ça devrait, voilà, d'ailleurs, enfin j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le patron de Spotify se plaint tous les trois jours de la situation sur iOS, à moins que ça soit une stratégie de communication. Mais donc, dans tous ces domaines-là, je veux dire, Apple TV+, même si auprès des clients iOS, est loin d'être un service de streaming dominant par rapport au Netflix et autres. Et je suis à peu près convaincu qu'il y a plus d'utilisateurs qui utilisent sur iOS, qui utilisent Spotify qu'Apple Music. De mon point de vue, le problème d'Apple TV+ et d'Apple Music, en partie, c'est leur nom. Parce que je pense que ces échecs, ça montre qu'Apple est incapable de séduire des clients qui ne sont pas dans son écosystème. Pour les gens sous Android, pour une bonne partie d'entre eux en tout cas, le terme Apple, ça va les repousser. Je suis certain que ça marche, que ces deux services marcheraient mieux s'ils s'appelaient iTunes, je ne sais pas trop quoi, ou Beats Bidule. Mais il y a cette manie chez Apple qui, moi je trouve que ça a l'air un petit peu stupide de mettre le mot Apple partout. On avait parlé avec Apple Invitation. Oui. Pourquoi appeler un produit Apple Invitation? Ils avaient un nom de code qui s'appelait Confetti, c'était cool, on avait envie d'utiliser ce produit, ne serait-ce qu'avec son nom. Non, on va mettre un nom bien rasoir, Apple Invitation. Pour avancer un argument, c'est que Apple a quand même une filiale qui s'appelle Beats, et donc elle vend des produits sous sa marque et elle n'a aucun problème à vendre des dizaines de millions d'écouteurs et de casques aux utilisateurs Android. Enfin, je dis ça comme ça.
En parlant des services, le remue-ménage se poursuit autour de Siri. Après l'annonce du retard du Siri plus personnel d'Apple Intelligence, il y a eu une remontée de bretelles en interne. D'après des éléments qui ont opportunément fuité, une réunion de crise s'est tenue récemment et l'équipe responsable de l'assistant a été sèchement réprimandée. Les fonctions retardées, c'est-à-dire celles qui permettent à Siri de piocher dans les données personnelles de l'utilisateur, ne fonctionneraient que dans 80% des cas au mieux actuellement. La débâcle est telle qu'il va y avoir des changements importants à haut niveau. Selon Mark Gurman, John Gianandrea, le senior vice-président en charge de l'intelligence artificielle, va être complètement écarté de Siri. C'est Mike Rockwell qui va superviser l'assistant à la place. Mike Rockwell, c'est l'homme qui a fait naître le Vision Pro, un projet qui n'était pas évident non plus. La question à plusieurs milliards de dollars, est-ce que ce changement à la tête de Siri va permettre d'enfin faire progresser l'assistant, Christophe?
Attends, tu disais 80% de succès, tu as bien dit ça?
80% d'après Mark Gurman, ouais.
Mais c'est déjà 4 ou 5 fois mieux qu'actuellement, quoi. Enfin, je veux dire.
C'est vrai, c'est vrai.
Météo à Siri, voilà. Alors, en plus, si tu habites Brest, il va te donner la météo de Brest.
De l'autre
aussi.
Brest, enfin, ouais.
Ouais, voilà. Donc, non, mais c'est. Et moi, il faisait le même coup d'ailleurs avec Lyon. Hein. J'ai découvert qu'il y avait une ville qui s'appelait Lyon aux États-Unis. Hein, donc. Non, mais ça commence à devenir préoccupant, et d'ailleurs, les difficultés d'Apple dans ce domaine, et d'ailleurs, ça commence à se savoir, alors évidemment, quiconque suit la tech n'est pas surpris, mais j'ai vu la presse financière commencer à en parler, et si Apple s'en est bien sorti l'année dernière sur les marchés financiers, c'est grâce à la promesse Apple Intelligence. Si Apple donne l'impression de se prendre les pieds dans le tapis, alors cela pourrait peser sur le cours de l'action, qui est déjà sous pression à cause déjà de l'actualité politique. Mais là, tu me poses une bonne colle. Mettre le mec derrière le Vision Pro à la tête de Siri, est-ce que c'est un gage de succès? Non, mais j'en sais rien. J'ai toujours eu un peu de mal, de manière générale, avec la stratégie d'Apple dans l'intelligence artificielle. J'ai toujours l'impression qu'ils cherchent à faire trop compliqué dans un domaine qui n'est déjà pas simple. Bah, j'ai envie de te dire vivement la WDC, en espérant qu'on y voit un peu plus clair. Alors, on sait qu'Apple va essayer de nous en mettre plein la vue avec sa nouvelle interface, mais je pense que ce qui comptera vraiment, c'est ce qu'elle présentera en termes d'IA à cette occasion.
Non, clairement, ouais.
Et de voir aussi le planning, parce que, enfin, avec les keynotes, avec ses vidéos enregistrées, Apple sait faire des démonstrations qui sont comme ça assez bluffantes, mais bon, ce sont, on l'a bien vu avec l'ancien Syrie l'année dernière, c'était juste un film, malheureusement.
Ouais, je pense à tous ceux qui ont acheté un iPhone, un iPad ou un Mac en se disant « Ouais, super, je vais avoir un peu l'intelligence », et puis voilà, qui se retrouvent avec, pour l'instant, un Siri qui est retardé à on ne sait pas quand, des autres fonctions qui sont au mieux sympas, mais sans plus. Il va falloir qu'Apple montre quelque chose de fort en matière d'IA à la WWDC.
Ouais, clairement. Et ça va finir en procès, cette histoire de Siri, parce qu'il y a eu cette publicité. Et bah, c'est la publicité mensongère. Donc, je pense que les avocats d'Apple vont avoir un peu de boulot. Mais quand je vois la vitesse à laquelle va la concurrence, et de l'autre côté, tu vois que Siri, on est un petit peu. Enfin, ça marche pas, on se réorganise. C'est évident qu'à court terme, ils vont perdre du temps. Et. Je pense qu'Apple va faire la course à l'arrière du peloton pendant un moment encore. Alors, espérons que cette organisation soit salutaire, mais je suis pas convaincu pour autant. Enfin, on jugera sur pièce.
On va terminer le tour de l'actu avec un petit résumé des rumeurs sur l'iPhone 17R. Elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus précises. L'iPhone 17R, si vous avez loupé un épisode, ce serait ce nouvel iPhone très fin qu'Apple sortirait cette année. Alors l'absence de MagSafe dans l'iPhone 16e faisait craindre à certains, je pense à Nicolas, une absence de MagSafe dans le 17R, mais ce ne serait pas le cas. En dépit de sa finesse, cet iPhone aurait bien des aimants, on est rassuré. Il aurait aussi ePromotion, une bonne surprise si ça se confirme, parce que jusqu'à présent Apple a toujours réservé ça aux iPhone Pro. Et puis il y a le prix. Le 17R était présenté au départ comme un iPhone ultra cher, plus cher encore qu'un Pro Max. Finalement, ce ne serait pas le cas. Il pourrait être au même prix que l'iPhone Plus, autour de 1100 euros en France. Ça reste cher, hein, mais avec Apple, on a l'habitude. Est-ce que tu penses qu'il pourra faire mieux au niveau des ventes que les iPhones mini et les iPhones Plus? Parce que ça semble être le problème d'Apple depuis des années, là, ce quatrième iPhone dans la gamme.
Oui, c'est des petits soucis. Est-ce qu'il ne faut pas voir cet iPhone 17R justement comme un iPhone 16e Pro?
Waouh, ça devient
Vous
compliqué
avez 2 heures.
là.
Non, mais ce qui est intéressant, et effectivement, voilà, Apple fait face à une équation à laquelle qu'elle n'arrive pas à résoudre depuis des années. Ce qui est intéressant avec cet iPhone 17R, c'est que c'est une proposition qui est vraiment différente de ce que l'on est habitué de voir. L'iPhone 16, c'est juste un iPhone 16 Pro en moins bien. La même chose avec le plus. Là, c'est malgré tout un appareil qui a des qualités propres. Je prends l'exemple de la photo et de la vidéo. C'est un argument important pour beaucoup de possesseurs de modèles pro. En même temps, je pense que pour bon nombre d'utilisateurs, la qualité proposée sur les modèles récents, pro ou pas pro, est largement suffisante. Et là, de se dire, bah voilà, vous avez un iPhone, enfin voilà une autre proposition, bah c'est un iPhone qui est très performant, qui voilà, qui fait de bonnes photos, de belles vidéos, qui est rapide. Voilà, la seule différence, c'est qu'il est bien moins encombrant et beaucoup plus léger. Voilà, donc je pense que ça peut intéresser des gens. Après, est-ce que ça marchera vraiment? La seule chose qu'on pourra dire, c'est qu'Apple a tout essayé. Elle a commencé avec le mini, elle a essayé avec le plus, maintenant elle va faire ça avec l'Air. Bah voilà, si ça marche pas, la seule solution, ce sera de faire un iPhone pliant.
On va sûrement y arriver d'ailleurs.
Oui, je pense aussi.
Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous et puis n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou une autre plateforme de podcast pour sortie de veille si vous appréciez l'émission. Salut à tous, bon week-end.